Culture sans frontières, Anna Kubishta.
Jacques Renoir, on s'était déjà rencontré en octobre dernier pour une exposition à Brno de vos photographies. On se retrouve aujourd'hui à Prague en janvier pour une nouvelle exposition, beaucoup d'actualités autour de vos photographies ces derniers temps. Alors cette fois-ci, c'est à l'Institut français à Prague et le thème de l'exposition, c'est toujours empreintes et collisions. J'aimerais bien que vous nous représentiez un petit peu, quelles sont les œuvres que vous avez choisies pour cette exposition à Prague.
Je dois vous dire que je suis vraiment très très heureux de voir cet ensemble photographique sur les deux thèmes exposé ici, parce que cette salle permet de déployer toutes ces photos sur les murs et d'avoir une vision d'ensemble. Donc il y a deux thèmes qui me sont chers, qui sont les empreintes et collisions. Empreintes, le thème des empreintes vient de la rencontre fortuite que j'ai eue dans une station de métro à Paris qui était en rénovation. Et cette station de métro avait la particularité, c'est qu'elle n'avait pas été rénovée depuis un demi-siècle et toutes les affiches collées les unes sur les autres, arrachées par les employés de la RATP, révélaient des choses extraordinaires qui sont belles, de forme, de couleur, de texture. Et je n'ai eu de cesse que pendant 3 mois de venir et revenir sur ces lieux pour capturer des détails, des formes, et qui, une fois agrandis, se retrouvent par la magie, je ne sais pas par quelle magie, ici, dans cette galerie de l'Institut français de Prague.
Alors c'est intéressant parce que finalement, ces affiches sont souvent, la plupart du temps, des anciennes publicités qui ont finalement vocation à être éphémères, puisque une en remplace une autre. Et finalement, le fait d'avoir toutes ces strates, paradoxalement, ça leur donne une histoire ou un passé.
Ça leur donne une histoire, un passé et j'espère un avenir. Mais vous avez raison de parler de cela. C'est cette matière qui semblait être condamnée, finalement revit et continue de vivre. Et c'est un petit peu le thème d'ailleurs que nous avons abordé, ma compagne Claude Montserracal et moi-même. Elle a écrit un très bel essai qui s'appelle « Petite ontologie du reste », qui est une réflexion sur l'être et le non-être, et tirée comme du poème de Parménide. Je ne sais pas si vous connaissez, moi je ne le connaissais pas avant de connaître Claude Montserracal, Parménide, mais en tout cas c'est une réflexion sur l'existence des choses inanimées qui continuent de vivre. Et autant Claude avait une démarche philosophique et poétique, moi j'ai une démarche, disons, esthétique. C'est-à-dire que je vais chercher dans des endroits inhabituels où on n'a pas l'habitude de fréquenter, même un peu qu'on peut considérer comme repoussant, à savoir des déchetteries, chez les ferrailleurs. Je vais aller chercher dans cette matière, des textures, des formes, une dynamique je vais capturer avec mon objectif d'appareil photo, et de même les ramener à la surface et dans des lieux qui sont mieux fréquentés, puisque c'est en l'occurrence des galeries.
Alors justement, vous parlez des déchetteries, il y a aussi justement ces photographies qui s'appellent collisions, qui sont en fait des amas de ferraille, de métal, compressés, malaxés, j'allais dire. Ça me fait parfois penser un petit peu, ça fait lien un petit peu d'ailleurs avec la publicité des empreintes. Quand on regarde la photographie des canettes Pepsi, ça me fait beaucoup penser au pop art, par exemple, d'une certaine façon, alors refait à la sauce Jacques Renoir.
Oui, alors c'est très juste, mais je ne renie pas les influences, et je pense que tout artiste a subi des influences d'autres artistes. Hein. C'est ça, l'histoire de l'art est faite que d'une série de plagiats.
Et de réactivation.
Et de réactivation de sujets. On traite toujours les mêmes sujets, mais chacun, on y apporte une vision personnelle, ou un style, ou un procédé personnel. Et là, ces photographies parfois, on me dit, mais est-ce que c'est vraiment des photographies ou est-ce que c'est des tableaux, des sculptures, des gravures? En fait, ce qui m'intéresse dans la photographie, c'est d'établir des passerelles entre les arts multidisciplinaires que sont la peinture, le dessin, la gravure, la sculpture et, comme je vous le disais tout à l'heure, la littérature ou la philosophie. Donc, c'est en ce sens que ça m'intéresse de passer d'un domaine à un autre. En fait, peut-être, tout simplement, c'est parce que je suis un peintre raté et que je suis peut-être un bon photographe, mais j'emploie la photographie au lieu de la peinture. Je voudrais pas me risquer sur le terrain de la peinture, d'ailleurs.
En tout cas, il y a un œil familial, hein, ça faut quand même le dire, hein, puisque vous avez utilisé comme votre arrière-grand-père Auguste Renoir, votre œil, puisque vous étiez aussi directeur de la photographie. Vous avez tourné des films, notamment avec le commandant Cousteau, pendant à peu près 7 ans, d'après ce que je sais. Alors justement, c'est multi-activités, vous les conciliez aussi avec l'écriture. Vous avez publié il y a quelques années un roman biographique, un récit biographique évoquant justement Pierre-Auguste Renoir, le peintre, qui s'appelle Le tableau amoureux. Alors, pourquoi Le tableau amoureux? Moi, j'ai ma petite idée parce que on parle tout le temps d'amour dans ce livre et de femmes. C'est un univers très féminin, alors que finalement, vous évoquez évidemment Renoir, la famille Renoir, mais il y a toujours ces femmes partout.
Oui, moi, je crois que, autant l'avouer, nous aimons par tradition les femmes et nous leur rendons hommage comme on peut, bien sûr. Mais le tableau, vous avez raison, c'est un tableau un peu de famille, comme un tableau de famille, et amoureux parce qu'il y a de l'amour là-dedans. Mais il y a aussi, dans ce livre, il y a aussi des aventures, il y a aussi la détresse, il y a aussi la guerre, il y a aussi la souffrance d'un peintre qui, à la fin de sa vie, souffre de rhumatisme et continue de peindre avec passion, avec amour, malgré la souffrance. La souffrance aussi parce qu'il a eu ses fils blessés, parce qu'il a perdu son épouse. Mais il y a aussi l'amour naissant de ces jeunes adolescents qui découvrent l'amour. Il y a, voilà, c'est aussi un roman. Tout ce que je dis est certes vrai, mais tout ce que personne ne sait, je me suis permis de broder là-dessus, mais en connaissance de cause quand même.
Vous-même, vous avez passé une partie de votre adolescence aussi au Colette dans ce domaine. Quels sont un peu vos souvenirs de l'époque ?
Effectivement, j'ai passé mon enfance, mon adolescence dans la propriété familiale qui, par la suite, est devenue un musée, qui est actuellement un musée. Et cette propriété a surtout la particularité d'être implantée dans une oliveraie magnifique. Une oliveraie où les arbres sont millénaires et des troncs énormes, noueux, magnifiques comme des sculptures. Et d'ailleurs, ça a été un thème aussi de mes photographies, de considérer ces troncs d'arbres comme des sculptures en noir et blanc et de trouver dans ces troncs, toute un fantastique sur lequel on peut se projeter. Voilà. Donc, le thème des oliviers de Renoir aussi est un thème que j'ai exploité. Et depuis que nous sommes vus à Brno, il y a un sujet que je travaille avec, qui m'intéresse beaucoup, c'est le mouvement en photo. Je suis cinéaste, donc quelqu'un qui aime les images en mouvement.
Ce qui est paradoxal, puisque là aussi la photo fige. Hein.
Alors, la photo fige, justement. Et quand on m'a demandé de traiter les ballets d'opéra comme thème photographique, j'ai pas voulu le faire comme traditionnellement on le fait, où on voit de magnifiques poses de danseuses en équilibre sur leurs pointes, ou de mâles, de jeunes et faibles qui s'envolent et qui restent suspendus dans l'air. Tout ça me semblait un petit peu amusant, et donc ce que je voulais faire, c'était au contraire donner dans la photographie le sentiment de mouvement. Et un jour, si vous les verrez, et vous verrez, j'essaie en tout cas de traduire ce mouvement dans la photo.
Dans le tableau amoureux, il y a une phrase que j'aime beaucoup, enfin en tout cas une scène que j'aime beaucoup, c'est quand Renoir dit que finalement l'impressionnisme n'aurait peut-être pas existé s'il n'y avait pas eu le tube de peinture, d'une certaine façon.
Je pense que toute la peinture contemporaine aurait eu été différente. Parce que, voyez-vous, prenez le cas de Delacroix. Delacroix part au Maroc, il a aussi une mission diplomatique. Bon. Puis il est peintre, mais il ne peut pas peindre sur le sujet lui-même parce que la couleur était broyée et mélangée avec de l'huile et se séchait très vite. Alors on le mettait dans des petits sacs en cuir qui permettaient de conserver la couleur liquide, enfin la pâte. Mais ça séchait très très vite. Donc en fait, les peintres prenaient des dessins, faisaient des esquisses et revenaient dans leur atelier et faisaient dans leur atelier leur toile. Delacroix, toutes ces scènes marocaines ont été en fait peintes dans son atelier rue Fürstenberg à Paris. Et quand on a inventé le petit tube d'aluminium dans lequel on pouvait mettre la pâte, qui conservait la pâte moelleuse et qui on pouvait l'utiliser donc en extérieur, les peintres se sont dit, allons peindre en extérieur. Et il y a eu ça, cette raison-là aussi. Il y a eu aussi la raison parce que on était arrivé sous Napoléon III, des peintres officiels dans un excès de l'art de maniérisme pompier, et des peintres se sont un peu révoltés contre ça. Ils ont voulu traiter d'autres sujets, des sujets sociaux, des gens dans le quotidien, dans la vie quotidienne, et pas seulement des aristocrates, mais prendre aussi la paysanne de Millet, peigner des paysannes, Renoir peignait des bugandières, des femmes qu'il avait dans la rivière. Voilà. Et puis il y a eu aussi le train qui a permis de que les Parisiens s'évadent de Paris et aillent dans la forêt de Fontainebleau. Alors on partait avec son petit baluchon, avec son pique-nique, et on partait pour la journée où on s'installait plusieurs jours dans une auberge et on peignait sur le motif les impressions que l'on ressentait de lumière changeante, et on peignait rapidement parce qu'on voulait capter ces chatoiements de couleurs, de formes, de lumière.
Un autre passage du roman, Renoir prône d'une certaine manière une peinture joyeuse. C'était sa manière d'appréhender aussi la vie ou...
Oui, oui. À la différence d'autres peintres comme Degas, comme Toulouse-Lautrec, qui peignait des choses, était le témoin tout n'était pas merveilleux au XIXe siècle à Paris, il y avait cette misère, il y avait ces difficultés. Renoir, lui, au contraire, a toujours prôné une sorte de bonheur de vivre, de joie. Il disait, une peinture au mur, ça doit être un plaisir de la regarder, ça doit être décoratif. Il peignait des jeunes femmes, il peignait des enfants, il peignait des scènes de bals ou de repas, comme le déjeuner des canetiers. C'est vrai qu'il a toujours conservé cette conception de la vie, alors que, comme je le disais, à la fin de sa vie, il souffrait terriblement de rhumatisme déformant, et qu'il aurait pu, mais non, c'était ça qui l'intéressait.
Une rue qui penche, un bal sous les branches.
C'était le photographe français Jacques Renoir qui était à Prague pour présenter ces deux cycles de photographies Empreintes et Collisions. Ces photographies sont à voir à la galerie 35 de l'Institut français de Prague jusqu'au 27 février prochain. Merci de votre fidélité. À bientôt. Ahoy.
Paris, le joli moulin de la galette.